Bonjour à tous. Bonjour. J'ai eu peur que vous ne soyez pas là. Vraiment. En tout cas, je me réjouis de ce que tu as partagé concernant les finances. Je comprends que vous vivez un défi, mais pour moi, la solution peut être que dans notre générosité. La générosité du Père. Dans la générosité du Père et puis bien sûr dans la nôtre aussi. Et je voudrais tellement vous encourager, tous l'Église là, des pas de générosité que vous avez faits. Et moi, je suis convaincu que vous allez y arriver. Hein. Il manque plus que 800 euros pour la phase 1. Pour la phase 1. On fait une offrande là? 800 euros? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ben, c'est génial. Moi, je trouve que c'est bien. C'est ça, marcher par la foi. Et c'est vraiment super. En tout cas, je vous encourage vraiment dans ce combat de foi ensemble là. Et il faut qu'on joue groupir. Hein. En tout cas, on a été heureux, hein, quelques-uns qui ne sommes pas de l'Église ici, hein, je veux dire membres, d'avoir pu contribuer aussi à ce travail-là. Et on va continuer de prier. Puis si le Seigneur nous demande encore, on va continuer de donner, hein, pour que vraiment vous soyez vraiment en liberté totale. Hein, par rapport à toutes ces choses importantes, bien entendu. Hein. C'est la boîte, c'est celle-ci, là. Celle-ci. Tiens, on l'a fait passer, d'ailleurs. Hein. Voilà. Il manque, pour la phase 1, vous avez bien compris, il manque que 800 euros, quoi. Hein. Je veux dire, donc, faites-la passer, et puis on ne sait jamais, le Seigneur peut aussi susciter un don de libéralité au milieu de nous. Hein. Les amis, je vais m'adresser à ceux qui étaient là hier. Vous ne sentez pas rejeté si vous n'étiez pas là ce week-end. Justement, ça vous aidera peut-être à faire la jonction avec notre temps ici ce week-end. Allez, ceux qui étaient là hier, quelque chose qui vous a marqué, qui vous avez reçu, quelque chose que vous avez saisi. Manu, lève la main, je vous préviens, hein, c'est Manu qui commence. Hein. Bon, allez, Manu. Ah si, il y a David aussi, super. Puis il y a quelqu'un aussi qui a levé la main, non? Il n'y a que David et Manu pour l'instant. Ah, Manu. Oui. Ah oui.
Et ce que tu nous as très bien expliqué, c'est que vu sa position et la position d'étouffement, le Christ n'avait pas plus de souffle pour en dire plus, mais que pour tous les Juifs, il connaissait les Écritures par cœur. Et donc, en tout cas, moi, j'ai imaginé, après que tu aies dit ça, et alors qu'on lisait, c'était le psaume 22. Je pouvais imaginer les frères et sœurs de Jésus, sa mère, ses disciples au pied de la croix et en train de le dire pour Jésus. Et si vous reprenez le psaume 22, il y a ces promesses que le Père fait. Et il dit, mais tu ne m'as pas abandonné. Et du coup, Pierre a souligné le fait qu'on a eu cette image mensonge qui nous a fait croire que Dieu avait tourné le dos à Jésus à cause de nos péchés, parce que c'était insupportable. Alors que le Père s'est tenu avec Jésus et il ne nous rejette pas.
Alléluia. Waouh. Le psaume 22. Hein. Si vous voulez comprendre... Élie, lama sabachthani, vous voulez vraiment comprendre le sens de cette une des sept paroles de Jésus sur la croix. Viens, David, mon ami. Il faut que vous puissiez lire, il faut absolument lire le psaume 22. Et là, tout d'un coup, ça se met en perspective. Et merci, Manu, c'est tellement fort. Hein.
Donc, elle a pris ce que j'allais dire, et aussi Pierre. Mais c'est vraiment de vous encourager de lire le psaume 22 avec les lunettes de la croix. Et vous allez voir qu'il y a une autre puissance qui sort de ce psaume qui est déjà fort. Mais quand tu vois que Jésus est en train de dire, voici ce qui est en train de se passer. Et tu le lis, tu dis, ah ok, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment autre chose.
Amen, oui. Parce qu'il y a ce que nous voyons et puis il y a ce que nous pouvons voir dans l'esprit en lisant ce psaume. Et Jésus nous a donné à la croix. Vous savez, c'est vrai que j'avais cette image, moi, de Jésus pendu à la croix, comme ça, vraiment. Et vous savez, où tous les muscles de du thorax sont comprimés parce qu'il est carrément pendu et qu'il doit pousser sur ses jambes pour juste faire une apnée. Mais quand dans une apnée, il dit « Heli, Heli, là-bas, Samartali », à nouveau son corps s'effondre sur son poids. Le psaume continue à être lu à l'intérieur, continue d'être récité à l'intérieur. Et c'est important que, que nous le lisions dans cette méditation. Vous savez, il y a un tableau aussi que j'aime beaucoup, que j'ai vu récemment. J'aime bien l'art, hein, j'aime beaucoup la peinture en particulier. Et c'est un tableau qui m'a marqué parce que c'est généralement, on voit toujours la croix en contre-plongée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on regarde le Christ comme ça, pendu. Voilà. Et là, c'est un tableau différent, c'est la croix depuis le regard du Christ sur les gens qui sont autour. Vous l'avez vu ce tableau? C'est dommage que... J'ai pas... Du coup, tu avais raison, Vito, de venir avec ton escabeau. Là. Non. Mais c'est vraiment un tableau magnifique parce que c'est au contraire, c'est une plongée en fait. C'est depuis le point de vue du Christ, la scène qu'il voit ici. Et je crois que quand vous lirez le psaume 22, pensez à ce tableau, pensez à ce que le Christ a pu voir depuis la croix lorsque vous lisez le psaume 22. Hein, c'est vraiment... Quelqu'un d'autre? Oui.
Alors Pierre nous parle beaucoup par des images, et alors moi il y a une image que j'ai vraiment retenue et que j'aimerais partager avec ceux qui n'étaient pas là. Il nous a parlé de deux sœurs qui dansaient lors d'un temps de louange, et il disait que visiblement sur une des sœurs il y avait une onction tout à fait évidente, et sur l'autre sœur, bien qu'elle dansait pareil, elle dansait en miroir, on ne voyait pas cette onction. Et Dieu lui avait dit, c'est parce que sur celle que tu vois, là où tu vois l'onction, c'est parce qu'elle danse, parce qu'elle se sait aimée, parce qu'elle est aimée. Et l'autre, elle danse pour être aimée. Et je trouvais que c'était vraiment une clé. Je vais garder cette clé pour moi.
Oui. Retourne à ta place en dansant. Alléluia. Oui, qu'est-ce qui nous fait danser dans la vie, hein? Quelqu'un d'autre? Oui.
Ce qui m'a bouleversée, c'est cette notion d'amour et de douleur. Et c'est particulièrement ce tableau où on voit le Père qui porte le Fils sur la croix. Qui est... Tu as les ressources pour trouver le tableau?
Envoie-moi un mail, puis je t'enverrai ça.
Okay.
Mais tu peux trouver facilement sur Google. Si tu ne trouves pas, envoie-moi un mail.
Okay.
pierrecongat@gmail.com.
Ok, ça marche. Cette notion de douleur et d'amour, et j'en reviens à ce lien d'attachement, et que ça me bouleverse parce que c'est... L'attachement du Père pour son peuple, pour ses enfants, la prunelle de ses yeux, je crois que j'ai vraiment été impactée par ça. Et je parlais d'ocytocine. Et c'est l'hormone de l'attachement, mais c'est aussi l'hormone qui déclenche les contractions. Et la douleur et le lien, il y a quelque chose de très fort dans l'amour et la douleur.
On a parlé de l'ocytocine comme étant l'hormone de l'attachement, mais on complète en étant aussi l'hormone qui va mettre au monde l'enfant, parce que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, la Bible ne répugne pas, et loin de là, à comparer l'Éternel à une mère en Israël, en fait, aussi. Il y a beaucoup d'images, on n'a pas eu le temps de voir tous les versets, bien sûr, ça prendrait facilement une bonne demi-heure. On a médité sur une autre traduction possible de El Shaddai. Et donc, pourquoi le Seigneur assume aussi ce côté maternel? C'est parce qu'on a dit que dans les nations, le Père n'est pas toujours présent. Et la chanson « Papa Outé » en parle amplement. Par contre, il y a une image internationale, transculturelle, qui est respectée, c'est l'image de la mère. Parce que la mère, elle parle à l'humanité de l'attachement. Donc ce père au cœur de mère assume ce cœur de mère parce que justement à cause de cet attachement qu'il a pour son peuple, dont vous faites partie, n'est-ce pas? Votre enthousiasme fait du bien. Alléluia. Alléluia. Et votre enthousiasme est communicatif. Hein. Peut-être une dernière pensée ou... Oui, ben voilà. C'est monsieur et madame? Ouais.
Juste une phrase qui m'a impacté, c'est Dieu n'est pas juste le Père céleste, il est aussi le Père terrestre. Et pour moi, ça fait un zoom.
Ah oui. Alors, je dois expliquer cela, hein. Je dois expliquer ça. Tu secoues la boîte, fais voir. Oh, génial. Alléluia. Karashikalansanda. La boîte se remplit, les amis, c'est super, merci Seigneur. Oh, y a même des lingots. Oui, vous savez, il y a vraiment deux signatures christiques. Il y a vraiment deux mots qui signent le Christ lorsqu'il parle. Vous les connaissez, ces deux mots, hein, déjà. C'est-à-dire dans le sens où, dans la littérature autour de Jésus, on ne trouve pas l'équivalent. C'est-à-dire que les théologiens ont regardé et ne trouvent pas l'équivalent de deux mots en particulier, deux expressions que Jésus utilise. C'est-à-dire que le premier, ben, c'est « Abba ». Il n'aurait jamais venu à l'idée d'un quelconque fils d'Israël d'oser appeler Dieu Abba. Et pourtant, Jésus va employer ce mot. Et ça, c'est la signature christique, la première signature christique, c'est que Jésus utilise le mot Abba, qui est un mot de grande tendresse, grand attachement, de grande affection, qui montre cette intimité qu'il a avec le Père, Abba. Et je vous rappelle que l'Esprit de Dieu au-dedans de vous crie « Abba hein, », Éphésiens 4, 6, il me semble. Ça, c'est la première signature christique. La deuxième signature christique, c'est « Amen, Amen ». Commencez une phrase par « Amen, Amen ». Ah, c'est assez inédit, c'est vraiment inédit. Et donc, en vérité, en vérité. Et là, vous voyez, ces deux mots résument qui est Jésus. La vérité. Et le Père en même temps, la tendresse du Père. Voilà, vous avez ces deux mots qui sont la signature même du Christ dans nos vies. Ce matin, je voudrais donc donner une suite à ce séminaire. J'avais le choix entre deux suites possibles, c'est-à-dire ben, de parler de l'aîné, parce qu'on n'a pas parlé de l'aîné encore dans ce parcours sur Luc 15. Et puis, j'avais aussi, et je suis vraiment déchiré parce que j'aimerais pouvoir me dédoubler là, puis prêcher les deux messages, ça ne va pas être facile. Donc, il faut que je fasse un choix. Et puis, la deuxième, c'est vous donner une clé qui me semble, c'est vraiment la clé que j'ai mis des années à comprendre, mais que je suis tellement heureux d'avoir saisie. Et d'ailleurs, cette clé, en grande partie, je l'ai saisie dans cette salle, un jour en enseignant à cet endroit là-bas, en voyant ce verset qui est là-bas. Et donc, je voudrais vous en parler quelques instants. Je vous invite à prendre la parole dans l'évangile de Marc. Et je vous invite, je vous donne rendez-vous au chapitre 9, s'il vous plaît. Rendez-vous au chapitre 9. Et voyons ce qui se passe à partir du verset 33 à 37. Et donc avec vous, je lis ceci. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent leur silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un va être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Voilà donc ces quelques versets que je crois qu'on connaît tous. Juste rappeler le contexte, Capernaum, c'est la ville de Naoum. C'est le même d'ailleurs ville qui a donné notre mot Capernaum. Quand une chambre est un Capernaum, ça veut dire qu'elle doit être rangée. Quoi. Et je vois des jeunes gens qui sourient comme ça. Et ils ont dû penser à leur chambre. Hein. Capernaum, un Capernaum. Alors pourquoi Capernaum et Capernaum, pourquoi c'est devenu un symbole de bazar? Parce que justement Capernaum est une ville de bazar en fait, une ville d'échange tout simplement, une ville de marché, une ville de marchandage, une ville où il y avait énormément de gens qui passaient, qui sortaient, etc. Une ville de beaucoup d'activités, il y avait une vraie activité commerciale dans cette ville et c'était vraiment le quartier, le croisement des chemins et des vendeurs. Et des fournisseurs, etc. Donc c'est ça, imaginez une ville pleine d'ébullition comme ça. Et dans cette ébullition, où les disciples sont donc arrivés, et Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin ?» J'aime énormément ça. Vous savez, ils arrivent, avant d'arriver à Capernaum, en fait, ils sont en train de discuter sur le chemin de savoir lequel sera le plus grand parmi eux, quoi. Ils sont trop ses disciples, quoi. Ils sont vraiment too much, moi. Moi, c'est ce qui me les rend attachants, parce que franchement, les gars, non, mais imaginez, ils marchent comme ça. Allez, lequel d'entre nous soit le plus grand, tout ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, quoi. C'est fou. Ce que Dieu fait. Hein. Je disais hier que Dieu, avant de nous rendre approuvés, il nous accepte. Hein. Heureusement que Dieu a d'abord accepté ces gens avant de les approuver, quoi. Parce que s'il avait dû attendre qu'ils soient approuvés pour les accepter, jamais les aurait acceptés, vous comprenez? C'est la stratégie du Seigneur, c'est, il accepte les gens. Et ce chemin d'acceptation, ces bras ouverts, en fait, vont créer un chemin par lequel nous devenons approuvés, quoi. C'est ça qui est merveilleux. Et effectivement, après, ça devient les douze apôtres de l'agneau et pas les douze apôtres du lion de Judas. Les douze apôtres de l'agneau. Juste un petit détail en passant. Voilà. En tout cas, ils sont en train donc de se bourrer le mou, c'est ça? De faire le cake? D'autres expressions du style? De se la péter un peu, c'est ça? Hein, ça va comme ça? C'est bon? Ok. Donc... C'est bon, on est sur la même longueur, hein, c'est vrai, okay. Donc ils sont en train de se la péter, ils sont en train de faire le cake, savoir lequel sera le plus grand. Mais alors ce qu'il y a de beau, c'est que donc ils sont pleins, remplis d'eux-mêmes comme ça, puis je suppose que chacun a une vraie idée de qui sera le plus grand, comme ça. Puis ils arrivent dans la maison et puis tout d'un coup Jésus leur dit, de quoi discutez-vous, faites en chemin. tout d'un coup, juste la question de Jésus, ils sont complètement intimidés. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne qui ose la ramener, quoi. C'est très intéressant, très intéressant. Cette réaction humaine, là, ça me parle beaucoup. Autrement dit, elle nous montre une chose, c'est qu'à un moment donné, les disciples sont là. Puis quand Jésus leur demande, de quoi discutez-vous, au fait, en chemin? Comme s'ils ne le savaient pas, enfin bref. Au fait, juste un petit détail comme ça, vous discutez de quoi en chemin? Tout d'un coup, il y a un silence qui s'installe, un peu comme celui-là ce matin. Là. Oui, cette capacité incroyable hein, de disciples de passer de là, clac, à là. Plouf. Cette capacité finalement que l'être humain a de passer d'un moment d'exaltation de lui-même à des moments de honte en fait. Vous voyez ce moment, vous. Et ça prouve qu'il y a une sorte d'inquiétude dans l'être humain. Je crois que d'ailleurs c'est propre à l'être déchu en fait. Est-ce que les disciples étaient sauvés d'ailleurs à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient sauvés? Ils étaient en chemin vers le salut. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand bien même on ne trancherait pas sur la question du salut avec un grand S, il y a en tout cas leur âme à ce moment-là, elle ne vit pas une forme de salut, elle n'est pas elle n'est pas rassérénée, elle n'est pas en paix, elle n'est pas réconciliée, leur âme. À ce moment-là, ils sont soit dans l'exaltation d'eux-mêmes, soit dans le mépris d'eux-mêmes. Et finalement, ce mouvement comme ça entre le haut et le bas, c'est typique, je dirais, de la perdition en fait. C'est même là, je dirais, ce qui signe en fait le fait que nous ne sommes pas sauvés, hein. C'est que, quelque part, l'être humain ne sait plus qui il est. Alors, il ne sait pas qui il est perdu en lui-même, parce que le péché n'a pas simplement affecté notre relation verticale, hein, n'a pas affecté simplement notre relation avec la Trinité. Le péché a affecté, pas seulement infecté notre relation avec l'autre, d'ailleurs, avec les autres, mais le péché aussi a affecté notre relation à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que au moment où le péché est entré dans le monde, il y a eu un triple fracassage qui s'est produit, un fracassage vertical avec la Trinité, un fracassage intérieur dans notre relation avec nous-mêmes et un fracassage avec les autres. On comprend que si la Trinité elle est relationnelle et que Dieu n'est que relation en fait, hein, que tout est relationnel en Dieu et que c'est une relation qu'il cherche avec nous. Vous comprenez, se couper avec la Trinité, c'est se couper avec la source même de la relation, parce que la relation, c'est celle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la Trinité, c'est le modèle même, c'est ce qui modèle toutes les relations possibles, inimaginables. Et donc imaginez ce que le péché a fait en nous coupant avec la Trinité, pouf, il nous coupe avec la source de toute relation possible, de relationnalité, de sociabilité possible. Et du coup, cette sociabilité, cette rupture, nous la vivons en nous-mêmes comme une cassure intérieure de nous à nous-mêmes, finalement. Et puis, bien sûr, ça va se décliner après sous forme de conflits avec les autres, de divisions, de séparations, etc. On va se séparer comme ça, dans relationnellement. Mais ça vient d'une séparation fondamentale qui est d'abord avec la Trinité. On perd le contact, et du coup on perd le contact avec soi-même et avec les autres. Ça, c'est ça effectivement, là, être perdu en fait, être perdu finalement, c'est ça en fait. C'est être perdu dans un tissu relationnel qui va bien au-delà juste de simplement le fait d'être coupé avec Dieu, mais c'est aussi en nous et avec les autres. Donc ça, j'aimerais que vous voyez. Or, lorsque l'être humain vit dans cette décline, constate cette perdition, il ne sait plus qui il est. Alors, il ne lui reste que deux possibilités. C'est par le matériau de l'orgueil, l'être humain va donc chercher à s'exalter. Il va chercher à s'élever lui-même, à faire le cake. Il va essayer à se promouvoir lui-même, à monter au sommet de lui-même, au sommet de pour essayer de se faire aimer d'ailleurs des autres, pour essayer de se faire accepter, pour impressionner, pour briller, etc. Donc ça c'est une manière d'être perdu, mais il y a une autre manière d'être perdu d'ailleurs qui est absolument l'autre déclinaison de cette version-là, ben c'est de se rabaisser soi-même en fait. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas l'orgueil et l'humilité, hein. C'est l'orgueil et l'orgueil. Ce sont deux versions d'une même réalité de l'orgueil. Et donc Jésus, bien sûr, à qui ça n'avait pas échappé, le fait qu'ils aient cherché à savoir qui était le plus grand au milieu d'eux, il s'assit, appela les 12 et leur dit, ça prouve bien qu'il avait entendu leur discussion, et voyant leur silence, il a vu ce mouvement. Clouc, clouc. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ça, nous connaissons ce passage. C'est ce qu'on appelle la diaconocratie. Il n'y a pas de leadership, si ce n'est que dans et par le service. Et effectivement, Luc 15 et la dernière parabole de Luc 15, la dernière partie de cette grande parabole de Luc 15 montre très clairement qu'il y a dans les serviteurs une révélation bien plus grande de qui est le Père, et c'est le paradoxe que Jésus veut nous montrer, de ceux qui servent ont mieux compris qui est le Père que les fils légitimes de la maison qui, eux, ignorent le Père. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, une jeune fille ou un jeune homme sans importance, ou selon le sens qu'on donne au mot grec, ou un serviteur du roi, donc vous voyez, on est vraiment à deux extrêmes d'une polysémie du terme, là. Quand il va à la rencontre de l'aîné, et l'aîné lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit, avec joie, le serviteur dit, mais tu sais, ton frère, ton père, tellement de la joie qu'il a de le retrouver, mais il a fait la fête avec lui. Et quand vous regardez à la fin de la parabole, la fin du chapitre aussi de Luc 15, c'est exactement dans l'esprit ce que le père va dire, pratiquement mot pour mot. En tout cas, dans l'esprit, c'est la même chose. Et on voit comment ce serviteur, qui n'est pas le fils légitime de la maison, finalement a une révélation bien meilleure que les deux fils de la parabole, quoi. Ce qui montre pour nous quelque chose d'important, c'est que dans le service, il y a un chemin de révélation. Que servir, que se mettre au service, c'est se mettre aussi à accueillir la révélation. Et en tout cas, Celui qui est bien traité en servant, les proverbes nous disent, à la fin, il finit par se prendre pour un fils. Et c'est comme ça que dans la parabole, à mon avis, il n'y a pas de mercenaires, il n'y a que des serviteurs qui ont été gagnés par l'amour de ce père-là. Et donc, la suite, et c'est là que je voudrais qu'on regarde visuellement même, j'aimerais que vous imaginez visuellement ce qui s'est passé. Il prit un petit enfant, c'est le verset qui est là-bas, mais il est tronqué le verset. C'est dommage, vous allez comprendre pourquoi c'est dommage d'avoir tronqué le verset, parce que je voudrais vous montrer quelque chose justement dans le verset 37. Le verset 37 est tronqué. Vous allez voir. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit... Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. La suite des versets laisse entendre que je pense que les disciples n'ont pas encore bien saisi d'ailleurs les propos de Jésus. Puisque Jean va reprendre la parole, on dit « à propos d'être envoyé en fait ». Vous voyez, Jean va rester un petit peu sur... Il va piquer un mot comme ça, comme souvent on fait d'ailleurs dans un échange. Il pique le mot « envoyé » et puis il dit « ah oui, concernant quelqu'un qui chasse les démons et qui ne fait pas partie de nous, est-ce que c'est quelqu'un qui est envoyé de Dieu ou pas en gros ?» En fait, c'est comme... Bon, Jésus va répondre quand même à cette question, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu raté, comme d'habitude d'ailleurs. Les disciples ont raté le sens de ce verset-là. Et j'aimerais qu'on s'apesantisse un petit peu sur ces deux versets et j'aimerais vous proposer un regard peut-être nouveau par rapport à ces deux versets-là. Donc voilà, d'abord, il prit un petit enfant. En grec, ici, vous avez le verbe lambano. Lambano. Ça veut dire saisir. C'est-à-dire qu'à la rigueur, j'imagine saisir avec l'idée qu'on ne demande pas forcément l'assentiment de la personne qui est saisie. Vous voyez ? Moi, je suppose que l'enfant, tu sais, il était là dans les bras de sa mère ou en train de regarder les disciples à côté de Jésus, puis d'un coup, boum, il saisit, il regarde qu'est-ce qu'il saisit comme ça. Oui, c'est ça l'idée. C'est le gars, il est saisi, quoi. Donc, Jésus ne va pas demander la permission à l'enfant, hein, il va le saisir. Et il va mettre l'enfant au milieu de ses disciples. Au milieu. Je précise, au milieu. Au milieu de ses disciples. Ensuite, venant donc, étant lui-même au milieu, puisque s'il place l'enfant qu'il vient de saisir, qu'il vient de lambaner, hein, il vient le mettre au milieu de ses disciples, donc le Christ est au milieu du cercle des douze. Et à ce moment-là, il est dit, et après l'avoir pris dans ses bras, donc Jésus a saisi l'enfant, premier geste, le place au milieu de ses disciples. Et alors que Jésus est au milieu de ses disciples avec cet enfant, il place ses bras autour de l'enfant. Waouh! Et là, regardez le verset 37, parce que là maintenant on va voir un autre verbe, mais qui est un synonyme de lambano. Bien que celui-là soit un petit peu plus cool, puisque là, lambano veut dire saisir, accueillir, mais sans forcément demander la permission, quoi. Là, on a décomai, qui veut dire accueillir. Et alors, figurez-vous, accueillir ici, je vais vous dire le sens, hein, ça veut dire... soulever, recevoir quelqu'un, recevoir l'hospitalité, recevoir dans une famille, élever ou éduquer. Alors, s'il y en a qui sont dans l'éducation chrétienne ici, hein, Jésus, toute la dimension de l'éducation chrétienne est là. Hein. S'il y a des parents ici, vous pouvez vous sentir concerné par ce décomail. Hein. Recevoir favorablement, prêter l'oreille à, embrasser, s'approprier, approuver, hein. Ne pas rejeter. Recevoir, donc. Et élever ou éduquer. Waouh, c'est quand même un mot très, très fort. Donc, ils sont synonymes, mais ils ont aussi leur particularité chacun. On a dit lambano et décomai.
Et alors, ce que vous regardez, on peut regarder, et ça j'avoue que ça m'avait jamais marqué à ce point-là jusqu'à présent, c'est que dans le verset 37, par exemple, le mot accueillir va apparaître combien de fois? Vous comptez? Quatre fois. Oups. Quatre fois. Vous dites, waouh, quatre fois? Quatre fois le même mot, le même verbe dans une seule phrase. Je crois que ça s'appelle une insistance, n'est-ce pas? Ça s'appelle insister et insister lourdement. D'ailleurs, je n'ai pas fait la recherche. Hein. S'il y a des gens qui peuvent m'aider à faire cette recherche, je suis preneur. Hein. Je n'ai pas eu le temps encore. Y a-t-il un seul verset prononcé par le Christ où le verbe est prononcé quatre fois? Je vous lance cette recherche. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils sont légion, ces versets-là. Il ne doit pas y avoir beaucoup de versets où le même verbe va revenir quatre fois. Boum! Et alors que déjà, au verset précédent, il y avait un synonyme de. Donc, on est à cinq quelque part. Mais bon, on va rester juste au verset 37 et on va être sur quatre fois. Accueillir. Je vous rappelle, exercer l'hospitalité. Élever, éduquer. Exercer l'hospitalité. Élever et éduquer. Et regardez l'image générale qui est une image aussi qui est magnifique. C'est celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants. C'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Autrement dit, il y avait la réception de l'enfant, c'est une réception des deux personnes de la Trinité, le Père et le Fils et le Père. Et celui qui accueille le Fils accueille le Père, celui qui accueille le Père accueille le Fils. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Autrement dit, l'enfant, le Fils et le Père sont mis exactement sur la même ontologie, la même réalité, la même vérité, la même profondeur. L'enfant, le Père et le Fils. Waouh! Et ça a du sens parce que, vous savez, dans un contexte juif, lorsqu'il est dit « Souvenez-vous de l'hospitalité, car certains, à leur insu, ont accueilli des anges. » Et qui a accueilli des anges? Par exemple, Abraham. Il vit trois hommes sous les chaînes de Mamré. Et il va exercer une hospitalité incroyable, il va leur offrir le veau gras, un pain de farine et du lait caillé. Un repas de choix trié sur le volet pour ces trois êtres, devant lesquels d'ailleurs Abraham va se prosterner en disant « Seigneur ». Je pense qu'Abraham, c'est pas à son insu qu'il a accueilli des anges, c'était l'ange de l'Éternel, excusez-moi du peu, quoi. Hein. C'est l'ange de l'Éternel qui était là, c'est le Seigneur déjà qui était là. Mais on sait aussi par d'autres passages que l'hospitalité, et la raison pour laquelle il nous faut exercer l'hospitalité, c'est que nous pouvons accueillir des gens et découvrir après que peut-être c'était des visiteurs divins. Quand avons-nous vu, Seigneur, donner... donner à manger comme ça, si vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous comprenez? C'est ça, cette idée. Donc, il y avait cette idée vraiment répandue, et d'ailleurs, le manque d'hospitalité encore dans le monde oriental, hein, c'est une honte parfaite, quoi. C'est-à-dire que de ne pas exercer l'hospitalité dans le monde oriental, c'est un devoir absolu, l'hospitalité. Mais on voit comment c'était chargé de foi, c'est-à-dire que peut-être que c'est un serviteur de Dieu, peut-être que c'est un ange, et si un ange ouvre ma maison, un ange, l'ange bénira ma maison. Il y avait ce glorieux doute quant à la personnalité de la personne qui était. Donc vous voyez, c'est dans ce contexte d'hospitalité que si on accueille quelqu'un, eh bien, on peut aussi accueillir un ange. Et là, le passage tape exactement dans cet aspect culturel-là des choses. Exactement dans cet aspect-là. En disant, si vous accueillez cet enfant, ce n'est pas moi que vous accueillez, c'est celui qui m'a envoyé. Et si vous accueillez cet enfant, vous accueillez aussi celui qui m'a envoyé. Pas seulement moi, mais celui que vous avez envoyé. Alors, la question, c'est bien sûr, et on va interpréter le passage, et on aura tout à fait raison de l'interpréter, c'est que cet enfant représente l'humilité, que donc ils avaient besoin de recevoir une leçon d'humilité, et que finalement, l'enfant représentant l'humilité, il fallait juste qu'ils comprennent que la vertu du service, le fait que par le service nous travaillons un caractère d'humilité, qu'il nous fallait être comme l'enfant, etc. Bon. Et je crois que vous connaissez cela. Je ne vais pas insister, je crois que c'est vrai, hein, parfaitement vrai. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus. Il y a une autre dimension. Ça va encore plus loin que ça. Et c'est ce encore plus loin que je voudrais aborder ce matin. Il y a quelque chose de plus. Parce qu'encore une fois, la question que j'aimerais vous poser, c'est qui c'est cet enfant, en fait ? Qui c'est cet enfant ? C'est beau de voir Jésus enseigner des adultes en mettant un enfant au milieu d'eux, quoi. Surtout des adultes qui sont là à un moment donné et juste après, ils sont là. Or, un petit enfant, vous savez, il est... J'imite ma fille Sarah, donc je la vois en faisant ça. Aujourd'hui, elle va avoir 30 ans. Elle fait plus ça, mais je vais dire... Quand elle était petite, c'était comme ça, Sarah. Sarah, elle était ni là, ni là, vous comprenez ? C'était juste Sarah, quoi. L'idée d'un enfant qui est juste positionné, ni là, ni là, juste là, tu vois ? Ni là, ni là, là. Ce chemin médian là que l'enfant nous montre. Et puis vous savez, cet enfant, ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au conte d'Andersen. Vous savez, le conte d'Andersen, il y a un roi comme ça qui se fait flatter par des arnaqueurs. Il y avait déjà du temps d'Andersen, il y avait des hackers et des arnaqueurs aussi, qui proposent au roi d'avoir un vêtement fait en fil invisible. Vous connaissez l'histoire ? Géniale histoire, hein ? Et donc les arnaqueurs arrivent et puis ils vantent leur fil invisible et puis le roi regarde ses conseillers pour voir s'ils ne vont pas réagir parce que lui il trouve quand même un peu bizarre le truc, mais comme les conseillers sont autour du roi qui n'osent rien dire parce qu'il ne voudrait pas vexer le roi quand même, il trouve ça aussi très très bizarre, mais le roi comme il a l'air de ne pas réagir, donc il se regarde en chien de faïence comme ça, il s'observe comme ça, comme le roi ne voit pas les conseillers réagir, comme les conseillers ne voient pas le roi réagir, alors le roi dit... Et il lâche une parole parce que ça le flatte. Il dit ah oui, ben alors tout d'un coup, comme le roi a dit ah oui, un truc comme ça, c'est lâché un petit peu. Ben t'as les conseillers du roi qui disent ah oui, sire, ça vous irait très bien sûrement ce fil invisible et ça. Et donc l'arnaque continue comme ça et puis pendant plusieurs mois, comme ça ils se font payer grassement de leur travail, tout ça, de tissage des fils invisibles. Vous imaginez le travail de précision qu'il faut. Et tout d'un coup, c'est le jour de l'essayage, quoi. Et alors imaginez le jour de l'essayage, le roi est à poil, quoi. Et puis vous avez donc autour les conseillers comme ça qui sont. Il y en a qui doivent se mordre la joue comme ça, d'autres qui se mordent la langue pour pas rigoler comme ça. Et puis ils voient le roi comme ça. Alors qu'en pensez-vous ? Alors, avec la zézette à l'air, imaginez tout ça. Et puis vous avez les conseillers qui disent oh sire, ça, oh, c'est... Il baisse la tête pour mieux rire sous cap, tout ça. Et puis, voilà, donc le roi est conforté dans le fait que c'est une œuvre d'art qui l'habille, n'est-ce pas ? Et qui donc, le jour arrive de la présentation publique, n'est-ce pas ? Du vêtement en public. Donc le roi, comme ça, avec tous ses conseillers qui marchent tout nus, la zézette à l'air, comme ça, dans les rues, comme ça. Et tout le monde n'ose rien dire, parce que tout le monde est... Donc les gens disent « Ah, oura, oura », tout ça. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui, lui, n'est ni là, ni là, qui va dire « Le roi, il est nu !» Et je veux dire, hier, d'ailleurs, j'ai vécu ça en direct ici. Oui, vous allez voir, vous allez comprendre. J'étais en train d'enseigner et j'avais la braguette ouverte. Et je voudrais remercier deux personnes ici, Carlo et Luc, qui vraiment sont venus me dire, Pierre, tu as la braguette ouverte. Vous savez, c'est à ça que je reconnais mes amis, comprenez ? Vous savez ? Parce que... Et donc, Carlo est venu me poser des questions assez théologiques. Puis il me dit, et puis, dans le milieu de ces questions théologiques, il y avait une affirmation qui, franchement, n'était pas une question. c'était sur ma braguette. J'ai dit, tiens, alors lui, il passe vraiment du haut vers le bas facilement, quoi. Mais je dis, vous voyez, vraiment, Carlo, je te remercie. Hein, et Luc, je te remercie. Mais Luc, on se connaît depuis 1983. Hein. Avant, 80. Ah ben non, mais on ne sait pas. 80 déjà ? Waouh. Donc c'est une longue amitié. Et Carlo, je le connais depuis peu. Hein. Depuis ce week-end, en fait, Carlo. Hein. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est, pour moi, c'est ça la véritable amitié. Comprenez ? C'est de pouvoir, avec beaucoup de grâce et d'amour. Parce que Luc, en plus, il est génial, parce qu'il vient et me dit, écoute, Pierre, peut-être que ta braguette est ouverte. Tu vois, la jeunesse, elle dit, ta braguette est ouverte. Et la maturité, avec beaucoup de la grâce que vous connaissez tous à Luc, dit, il est possible que ta braguette soit ouverte. Et je regarde Luc, je dis, écoute, Carlos m'a affirmé qu'elle était ouverte. Et je peux t'assurer que je l'ai fermée depuis, mais elle était vraiment ouverte. Et quand je pense que vous étiez une 35 ou je sais pas, 50 hier, et personne ne me l'a dit à part ces deux-là. Ah ben tant mieux. Voilà. Achète de moi un collier afin que tu vois ta nudité. Vous voyez, c'est ça, c'est la vertu de l'enfant dans l'Écriture. La vertu de l'innocence. Nous avons besoin que Dieu mette un enfant dans notre vie pour nous parler la vérité, pour aller au-delà des faux-semblants, au-delà des conventions sociales, au-delà de la religiosité, au-delà du paraître, au-delà de l'acceptable, pour nous dire la vérité avec simplicité, dans son dépouillement, et si possible avec le maximum d'amour. Voilà. On a besoin de cet enfant-là. Et vous savez, cet enfant était là pour leur montrer leur nudité à eux. Ça, c'est la première vertu de l'enfant. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui peut parler comme ça dans votre vie ? J'espère que vous avez quelqu'un comme ça qui peut parler dans votre vie comme ça. Et au fond, si on devait définir le coaching, parce que c'est un gros mot quand même, moi je parlerais du coaching comme étant l'enfant que nous acceptons dans notre vie pour nous dire où nous en sommes en fait. Et Dieu sait si ça fait du bien de remonter sa braguette. Parce que vous dites, waouh, je vais pouvoir cacher ma honte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est terrible d'être comme ce roi nu et ne pas se voir tel que l'on est. Et on a besoin que quelqu'un nous dise qui on est. Parce que vous savez, la fenêtre de Johari, c'est peut-être un peu... Vous savez, cette fenêtre de Johari, c'est en quatre carreaux comme ça, montre très clairement qu'il y a le carreau en haut à gauche, c'est ce que nous voyons, ce que les autres voient. Ce carreau-là, c'est ce que les autres... C'est ce que je vois de moi et que je cache aux autres. Ce carreau-là en bas, c'est ce que les autres voient de moi, mais que je ne vois pas de moi-même. Et puis enfin, le carré en bas à droite, c'est cette zone infracassable de nuit, comme dira un poète français. C'est cette zone que ni les autres ni moi-même, je vois de moi-même. Autrement dit, concrètement, la fenêtre de Johari nous dit que nous connaissons que la moitié de nous-mêmes, mais que nous avons besoin des autres pour voir qui nous sommes. D'où la vertu du corps de Christ qui joue aussi ce rôle d'enfant. Mais revenons, si vous voulez bien, à ce passage. Parce que dans le contexte, qui est cet enfant ? C'est cet enfant, ça doit être quand même quelqu'un d'assez incroyable. C'est quiconque accueille cet enfant, mais cet enfant... Ça veut dire juste accueille l'humilité de cet enfant. Bah déjà, le message serait passé, mais est-ce que c'est que ça ? Alors, j'aimerais maintenant parler un petit peu des disciples, imaginer un peu leur vie, les disciples. Parce que peut-être que si maintenant on aborde les choses du côté de la vie des disciples et de leur croissance et de leur généalogie, peut-être qu'on va peut-être mieux comprendre. Pour moi, les disciples, comprenez, ils viennent du judaïsme, on a bien compris qu'ils n'ont pas trop compris, et que le judaïsme des scribes et des pharisiens, parce que forcément ils ont été élevés par des scribes et des pharisiens, parce que le caté était donné par les scribes à l'époque de Jésus, et les enseignements étaient donnés par les scribes, je veux dire, c'était, vous savez, c'est ces gens qui étaient debout comme ça, et les enfants étaient assis dans les rues de Jérusalem, vous pouvez voir des cercles comme ça d'enfants qui apprenaient de la part des scribes, et dans les villes de Jérusalem, dans les villes d'Israël, pardon, les enfants apprenaient, et ils apprenaient de la part de ces scribes, ces mêmes scribes, ces mêmes pharisiens qui vont opposer le Christ, des gens qui étaient nationalistes en fait, assez haineux vis-à-vis des samaritains, des gens qui, je veux dire, qui n'allaient pas avec le dos de la cuillère, avec la loi de Moïse, quoi, quand même, je veux dire. Je me dis, je ne sais pas quel genre d'enseignant vous pensez que c'était, mais ça devait être déjà un petit peu... Vous savez, quand vous enseignez 613 commandements des enfants, tu dois faire. Je veux dire, l'enfant, punaise, qui grandit juste dans le tu dois ou tu dois pas, c'est... Je veux dire, il y a un moment donné, l'enfant... il peut se sentir que méprisé, d'ailleurs, ou méprisé par ses propres yeux. Il dit, mais moi, je ne suis pas digne de toi. Mais regardez d'ailleurs les disciples quand ils sont en présence de Jésus. Ah non, t'approches pas de moi, je ne suis pas digne de toi. Oui, on les voit, soit très très haut, ou alors, oh non, je ne suis pas digne, oh là là, approche pas de moi, je suis un des pécheurs. C'est le même qui a dit, t'approches pas de moi, je suis un de ces pécheurs, il faisait partie du groupe qui se posait la question, lequel d'entre eux était le plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça vient de quoi? Ça vient de l'éducation, ça. Ça vient d'une éducation toute en inquiétude de vouloir plaire à Dieu. Et comment on fait à plaire à Dieu? Mais moi, j'aimerais bien obéir à 613 commandements, mais j'y arrive pas! Et puis, alors donc, soit on résout ce problème de l'impossibilité de l'obéissance à la loi, soit par l'exaltation de soi, comme va le faire l'apôtre Paul avant de devenir apôtre. Il va monter au sommet de lui-même avec toutes ses qualités. Il va obéir aux 613 commandements, etc., de la loi, comme ça. Mais il va devenir un persécuteur, un gars violent comme ça. La lettre tue, comprenez? Puis la lettre, elle peut tuer aussi. Elle peut tuer aussi des estimes aussi. Hein. Des gens qui se sentent complètement largués, complètement dans l'échec par rapport à la loi. Quoi. Et puis vous rendez compte, tout d'un coup, sur la scène du monde, arrive ce Messie qui, lui, avant de chercher s'ils sont approuvés, commence par les accepter. Waouh, on n'en connaît pas ça. Mais Jésus, c'est vrai que des fois tu dis des choses bizarres, de manger ta chair, boire ton sang, franchement, c'est bizarre. Mais quand tu le dis, malgré tout, il y a de la vie. Quoi. Alors on n'a pas envie, de te quitter, on a envie de te suivre, parce que ça, on ne l'a jamais entendu. Et comprenez ces enfants qui ont grandi comme ça et qui finalement ils sont dans un état aujourd'hui, tout d'un coup ils se sont dit waouh. Hey, vous vous rendez compte? Et je pense que juste avant de savoir lequel était le plus grand d'entre eux, ils étaient juste en train de dire, vous vous rendez compte? On est disciples de Jésus-Christ. Oh punaise, c'est génial, on est disciples de Jésus-Christ. Et puis, au fait, ça vient tout de suite derrière, vous voyez. On, tout d'un coup, on sort du mépris de soi, puis d'un coup, ah ouais, on est disciples de Jésus-Christ. Ah ouais. Et au fait, lequel sera à droite et à gauche? Oui, tout de suite, ça. Très, très vite. Alors Jésus appela ses disciples, fit un cercle avec ses disciples, saisit un enfant sans lui demander son avis. Il le plaçait au milieu de ses disciples. Il le prit entre ses bras. Et là, quatre fois, il veut dire, si vous accueillez. Oh. Et voilà ce que je voudrais, ce qu'il me semble avoir vu. C'est que l'enfant, au-delà d'être juste celui qui montre notre nudité, c'est l'enfant, cet enfant représente l'enfant qu'ils ont été. Jésus met un enfant au milieu de deux. Peut-être juste pour dire, vous savez, votre exaltation, votre mépris de vous-même, il y a quelque chose de puéril là-dedans. Et cette puérilité, elle vient de où? Elle vient d'où, la puérilité de l'adulte? Elle vient dans une enfance qui n'a pas été réglée. Une enfance qui a été rejetée en arrière, une enfance qui a été oubliée volontairement, qui a été mise à distance. Attends, laisse-moi tranquille, tu comprends, je dois suivre le Christ. Mais laisse-moi tranquille avec ce que tu as vécu, franchement. Moi, je dois suivre la vie, tu comprends? Alors, reste derrière, s'il te plaît. Et puis, on s'approche du Christ. Mais si on a rejeté celui qu'on a aimé pour suivre celui qu'on voit devant nous, comme ça, on dit, oui, ça sera mon identité. Ça sera mon identité. Christ va devenir mon identité. Mais, s'il te plaît, tais-toi! Oui, Christ sera mon identité. Christ... Et je pense que Jésus, en fait, comme toujours d'ailleurs, quand il dit « De quoi discutiez-vous en chemin ?», il va, par ce discours-là, donner la clé de la fin de cet mouvement de balancier haut et bas. Il va voir que la raison pour laquelle il s'exalte à un instant et après il garde le silence dans la honte, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose de l'enfant, soit qui veut prendre une revanche sur son éducation, et puis quand il prend bien sa revanche de son éducation, alors qu'il est au sommet de sa revanche, tout d'un coup, il descend, il glisse comme sur un toboggan jusque dans la honte. Et Jésus a vu ça. Parce que Jésus va au-delà des apparences. Il va voir à l'intérieur de ses disciples. Vous savez, juste un exemple. Quand il parle, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Beaucoup pensent que Jésus parle de la taille du démon. Ce n'est pas la taille du démon sur lequel Jésus va discourir. Il va discourir sur la taille de leur foi. Du coup, le problème du démon passe à l'arrière-plan. Il va aller voir la source première de ce problème pour lequel ils n'ont pas pu chasser le démon. C'était l'incrédulité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, dans le cas présent, Jésus essaye de voir au-delà juste de l'aspect exemplaire des choses. Il ne leur donne pas juste l'enfant comme exemple. Il va leur donner l'enfant comme exemple, certes, d'humilité, mais surtout, il va leur parler d'un enfant en particulier. Et cet enfant, c'est l'enfant qu'ils ont été. Et regardez bien, je voudrais juste vous proposer de remplacer le mot enfant par enfance. Vous voulez bien lire avec moi le verset 37, pardon. Et on va remplacer le mot enfant par enfance. Ou petit enfant par petite enfance. Regardez ce que ça donne. Ou imaginez que je retraduise dans leur langage à eux par rapport à leur enfance. Regardez ce que ça donne. Celui qui accueille en mon nom une de ses petites enfances, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Alors, maintenant, la question, mes amis, qu'on doit se poser, c'est pourquoi Jésus va mettre sur le même plan relationnel, la même hospitalité, le fait d'accueillir sa petite enfance, accueillir le Christ et accueillir le Père. Pourquoi ces trois choses sont exactement sur la même réalité ? Et là, je voudrais convoquer un homme que j'aime beaucoup, Saint Augustin, théologien d'Afrique du Nord, qui a dit ceci. Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Vous répétez après moi cette citation de Saint Augustin ? Le Père est plus proche de moi que je le suis de moi-même. Et on va même faire un geste, regardez, on va montrer l'intérieur de notre paume. Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. On le redit ensemble en faisant le geste. Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Une autre version, c'est plus savante, c'est le Père est plus intime que l'intime de moi-même. C'est la même chose. Donc je préfère la version français courant, hein, quelque part. Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, le Père nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Enfin, rappelez-vous la fenêtre de Johari. Mais ça veut dire aussi quelque chose du style, c'est que le Père est plus proche de moi que je suis moi-même, c'est que j'ai tendance à être à distance de moi-même. Et comment on peut être à distance de soi-même ? Eh bien, exemple, les disciples, est-ce qu'ils n'étaient pas à distance d'eux-mêmes ? Quand vous êtes là au lieu d'être juste là, vous comprenez ? Vous êtes à distance de vous-même. Et quand vous êtes là, au lieu d'être juste là, vous êtes à distance de vous-même aussi. Vous êtes loin de vous-même. Et d'où ça vient ça ? Vous l'avez compris ? Ça peut venir de l'éducation, de l'enfance, du mépris que vous avez ressenti, du mépris que vous vous êtes affligé à vous-même, de l'exaltation que vous êtes affligé à vous-même. Parce que après avoir été Dieu quelques minutes, vous retrouvez comme un vermisseau, etc. Puis quand vous en avez marre d'être un vermisseau, vous vous exaltez vous-même pour être un Dieu, etc. Et on sait combien le diable a joué sur « vous serez comme des dieux hein, » cette tentation-là. Il ne s'agit pas d'être comme des dieux, il s'agit juste d'être par la grâce de Dieu, qui nous sommes par la grâce de Dieu. Hein. Mais revenons donc à cet enfant. Pourquoi donc, si j'accueille l'enfant, j'accueille le Christ, et là je voudrais semer un doute salvateur. Et si la distance, écoutez bien, parce que ça a été un flash pour moi.
si la distance que je ressens si souvent par rapport au Père ne venait pas tout simplement de la distance que j'ai posée entre moi et moi-même. Et si cette lutte intérieure que j'ai de lutter avec la présence de Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement être plus proche de toi, j'aimerais tellement ton intimité, etc. Puis tout d'un coup, l'enfant tape sur ton épaule, mais tais-toi, toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de... Seigneur, j'aimerais tellement être plus proche de toi. Et je vais lire des bouquins sur l'intimité avec Dieu. Je vais rechercher cette intimité. Je vais jeûner et prier. Puis pendant que je jeûne et prie, il y a l'enfant que j'ai été qui revient. Puis, mais allez ! Oh Seigneur, j'aimerais tellement être plus proche de toi. Vous comprenez le problème ? C'est si je rejette cet enfant. La distance que je crée vis-à-vis de cet enfant, c'est la même distance que je vais recevoir, ressentir avec le Père. Pour une raison très simple, je vais vous donner la suite de l'image. On reprend la citation de saint Augustin avec moi. Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Et regardez, et si je me réconcilie avec l'enfant que j'ai été, je me rapproche de moi-même, d'accord ? Mais qui habite en moi-même ? Le Père. Donc, étant réconcilié, pas seulement avec la Trinité, mais étant réconcilié avec l'enfant que j'ai été avec, eh bien, je vais me rapprocher du Père. C'est pour cette raison que l'enfant, le Christ et le Père, ici, sont mis exactement sur la même réalité. Si vous exercez l'hospitalité, 1. Si vous exercez l'hospitalité 2, si vous exercez l'hospitalité 3, si vous exercez l'hospitalité 4, si vous élevez, si vous adoptez 1, si vous adoptez 2, si vous adoptez 3, si vous adoptez 4, si vous élevez 1, 2 et 3 et 4, cet enfant, c'est pas l'enfant. C'est plus que ça que vous recevez. Vous recevrez le Christ. Vous accueillez le Père. Waouh ! Pour une raison très simple. C'est que nous sommes le lieu de cet accueil. Nous sommes, nos vies sont le lieu, l'accueil de la Trinité. Et si nous sommes à distance de nous-mêmes, nous accueillons la Trinité dans un hiatus, dans une distance. Et nous allons dire, mais pourquoi j'ai du mal à vivre cette présence du Père, du Fils pourtant ? Pourquoi j'ai du mal à saisir cet amour ? Pourquoi j'ai du mal à saisir sa présence dans ma vie ? C'est parce que tu as mis une distance au-dedans de toi, et cette distance, tu crois qu'il s'agit de celle que le Père met avec toi. Or, le Père ne peut mettre aucune distance avec chacun d'entre vous, parce que par définition, le Père, il est omniprésent. Où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, je t'y trouve. Si je vais à l'est, je t'y trouve. Je vais à l'ouest, à l'occident, l'orient, je t'y trouve. Si je descends au séjour du mort, je t'y trouve. Où fuirais-je loin de ta face ? Pour Dieu, pour le Père, la distance n'a aucun sens. Mais pour nous, ça en a tout le sens s'il est là. La distance. La distance égale la mort, la distance égale le deuil, la distance, ça veut dire tout, tout, tout pour nous. Et le christianisme, vous comprenez, quand il décline cette distance, alors il devient une religion. Mais quand le christianisme est vécu comme une réconciliation, pas seulement avec la Trinité, pas seulement avec les autres, mais cette réconciliation intérieure aussi, à ce moment-là, le christianisme n'est plus une religion en mon sens, ça devient une communion. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous comprenez ? Verset trinitaire, s'il en est question, il parle de cette communion. Communion, 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 communion. Le Père est plus proche de moi, encore une fois, que je suis de moi-même. Et si je me réconcilie, je suis réconcilié en Christ, alors je me rapproche du Père qui est en moi. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, la distance que vous percevez entre vous et le Père aujourd'hui,
n'est pas la distance que le Père met entre vous, entre lui et vous. La distance que vous ressentez à l'intérieur n'est pas une fracture dans la communion avec le Père, elle est une fracture entre vous et vous-même. Et toute distance entre vous, s'il y a 10 cm entre vous et vous-même, c'est 10 cm de trop entre vous et le Père. 5 cm, c'est 5 cm de trop. Et vous savez, à Madagascar, on était avec Luc là-bas, dans ce, Mathé m'a donné très gentiment 2 heures de prédication, d'enseignement. Elle m'a dit, Pierre, je te laisse la place. Et j'ai parlé aux enseignants. Mon but, c'était de quoi de dire aux enseignants? Vous voulez recevoir les enfants dans vos classes? Et avez-vous reçu l'enfant qui est dans votre vie? Parce que vous comprenez, l'enseignement, ça peut aussi devenir une stratégie d'évitement. On va enseigner, on va idéaliser l'enfant parce que finalement on veut éviter l'enfant qui est au-dedans de soi. Et puis on va idéaliser les enfants qu'on a devant soi. Mais on va dire à l'enfant qui est derrière, tu bouges pas toi. Hein? Et puis on va sourire devant les enfants. Je vous aime les enfants, de l'amour de Jésus-Christ. Toi, tu restes où t'es. Hein? Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et ça, enseigner sans avoir rencontré l'enfant que l'on est, sans l'avoir élevé, sans l'avoir pris dans ses bras. Parce que le message, il est là, dans le geste. Vous voyez, est-ce qu'il y a un enfant ici? Ah, tu veux bien venir? Avec maman, peut-être? Ce sera plus simple? Non, voilà. Non, il ne veut pas. On ne va pas insister. Oui, ce geste de mettre les bras autour de l'enfant. Alors, qui va mettre les bras autour de l'enfant? Le prochain prédicateur de passage? Qui va mettre les bras? Le verset nous montre qui va mettre les bras. Jésus va d'abord mettre les bras. Tu veux venir, jeune homme? Comment tu t'appelles? Gauthier? Ah, super, Gauthier. Merci, mon ami. J'apprécie beaucoup que tu viennes. Je ne peux pas trop me baisser. Voilà. Normalement, si j'avais fait comme Jésus, tu vois, j'aurais été de saisir sans te demander ton avis. Tu vois. Lambano. Si vous accueillez cet enfant. Et Jésus va mettre ses bras autour de lui. Regardez ce mouvement-là. Il n'y a plus de distance. On n'est que dans l'intimité. Il accueille cet enfant. Et cet enfant, c'est l'enfance des disciples. C'est votre enfance. Regardez l'enfant que vous êtes. Vous êtes beau, hein? C'est vous, ça. Et Jésus vous dit, je vous donne l'exemple. Souvenez-vous ce que j'ai dit Jésus, je ne peux rien faire que ce que je vois faire par mon Père. Et vous croyez que vous pouvez faire quelque chose d'autre que ce que vous voyez faire par Jésus? Autrement dit, Jésus vous donne le modèle et il vous dit, maintenant, it's your job. Maintenant, c'est toi qui vas le faire. Comment je fais ça? Eh bien, tu vas aller parler à l'enfant. Comment on parle à l'enfant? Alors, vous savez, c'est là où il faut être créatif. Hein. Il faut être super créatif. Hein. Il y a quelqu'un récemment qui a entendu ce message, ça a bouleversé sa vie. Je ne vous le cache pas, ça a bouleversé sa vie. Elle vient d'une famille hyper solennelle, hyper moraliste. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le mépris, elle en sait un mot, elle en sait un rayon. Mais du coup, elle a cru que ce mépris d'elle-même, c'était l'humilité. Elle a compris que le mépris de soi-même n'est pas l'humilité. Il faut parler à l'enfant. Il faut prendre l'enfant. Il faut se réconcilier avec lui. Vous savez, peut-être que cet enfant, il a vécu un truc pas cool, il y a 15 jours, ou un mois, 2 ans. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, l'enfant ne souffre pas tant de ce qu'il vit, excusez-moi ce que je vais dire, mais j'y crois de tout mon cœur, l'enfant ne souffre pas tant de ce qu'il a pu vivre, il souffre du silence qui entoure ce qu'il a vécu. Je le redis, un enfant ne souffre pas de ce qu'il a vécu, il souffre du silence des adultes par rapport à ce qu'il a vécu. Autrement dit, imaginons que ce soit le petit Pierre que j'ai été, tu veux bien me prêter cela? Hein? Imagine que tu es moi quand j'étais à ton âge, on va dire que tu t'appelles Pierre, juste quelques instants, d'accord? Imagine que le Pierre, là, qui avait son âge, il a vécu quelque chose de pas cool. Qu'est-ce que le Pierre, qui a maintenant 50, bientôt 57, doit dire? Qu'est-ce qu'il doit dire à cet enfant ? Il doit dire, tu sais Pierre, je sais ce que tu as vécu à cette époque-là. J'y étais. Et tu as vécu ça et aucun adulte ne s'est prononcé. Aucun adulte n'a rien dit. Mais aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je te parle comme mon grand frère. Comme si tu étais mon petit frère, cher Pierre. Eh bien, le grand frère aujourd'hui te dit, tu vois, ce que tu as vécu, eh bien, voilà comment aujourd'hui je te l'expliquerai. Avec des mots d'adultes, avec les mots de la Bible même, peut-être. Avec une prophétie de la Bible, avec une exhortation de la Bible. Voilà comment je vais expliquer, je vais parler à cet enfant. Et puis je vais te dire, enfant, sois consolé. Tu n'y étais pour rien dans ce qui s'est passé. Tout va bien. Ne sois pas coupable, ne te sens pas misérable. Hein ? Je t'aime, Pierre. Oui, et je vais faire cela. Et pourquoi le christianisme n'enseigne pas ça ? Parce que vous savez, on a eu peur d'un truc. On a eu peur de l'égocentrisme. On a eu peur de tout ramener à soi. Sauf que je vais vous dire une chose. Ma conviction, et j'ai fait un travail universitaire là-dessus. Ma conviction, c'est que pourquoi nous ramenons, l'être humain ramène tout à lui. L'être humain ramène tout à lui quand il n'est pas réconcilié. Quand il est dans le mépris lui-même. Alors il demande aux autres... Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et on ramène toute la réalité à soi-même, parce qu'on n'est pas en paix soi-même, on n'est pas équilibré, on est toujours en train de vous. Et donc on amène tout. Mais une fois que, comme David, notre âme est comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, vous avez déjà vu un enfant sevré sur le sein de sa mère ? Il faut juste lever la tête un peu, la pencher sur le côté, fermez les yeux à moitié, puis laissez pendre la langue. Faites l'enfant sevré, là, juste. Que je ne sois pas le seul à être ridicule ce matin, d'accord ? Et maintenant, c'est moi qui vais prendre des photos. Allez, on y va. Tu peux aller t'asseoir. Merci, mon cher. Allez, vous faites l'enfant sevré ? À quoi ça ressemble ? Ouais, pas mal. Il y en a, on voit, ça sent l'expérience. Hein ? Ça sent l'expérience. L'enfant sevré, c'est... L'enfant sevré sur le sein de sa mère, ça veut dire quoi ? Profondément rempli. Autrement dit, écoutez bien, l'altruisme, je dois définir le mot ou pas ? L'altruisme, ou si vous préférez la générosité, si vous préférez le don de soi, ne vient pas du vide, mais vient du plein. Parce que dans le vide, on cherche à remplir le vide. On attire tout à soi. On est comme un siphon d'un évier. L'évier, ça nous parle de ce siphon, de ce vide dans lequel tout est attiré. C'est ça l'égocentrisme. Mais quand vous lisez le psaume 23, tu remplis ma coupe. Et ma coupe, elle fait quoi ? Elle déborde. Eh bien, vous voulez savoir ce que c'est que l'altruisme ? Vous voulez savoir ce que c'est que finalement le ministère ? Vous voulez savoir ce que c'est que finalement le don de soi ? Eh bien, c'est le débordement. Il ne peut pas y avoir de ministère. Il ne peut pas y avoir de vraie générosité sans un débordement. Et ce débordement, je l'appelle la coupe fédérale du psaume 23. Cette coupe fédérale nous parle d'une coupe qui est restaurée, d'une coupe qui est réconciliée. Autrement dit, Jésus va leur montrer que le chemin de la véritable humilité ne passe pas par le vidage, le fracassage de la coupe, ne passe pas vers ce genre d'anéantissement-là, parce que ce genre de vidage de la coupe, de ce fracassage de la coupe, ne peut produire que de la religion, mais que la vraie don de soi, le vrai ministère, le vrai apostolat, un peuple apostolique envoyé, c'est un peuple qui déborde. Non pas de son égoïsme, parce qu'il aurait un vide en lui, mais de la plénitude de la bonté du Père, parce qu'il a été rempli de cette réconciliation. Nous avons été réconciliés avec le Père, 2 Corinthiens 5,16, et il a mis en nous, ah tiens, il a mis en nous, c'est les versets 20 et 21, il a mis en vous le ministère est la parole de la réconciliation. Il faut que tu parles à l'enfant. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Je vois un enfant qui pleure en toi. Qui consolera cet enfant? Qui consolera cet enfant? Jésus le prend dans ses bras, cet enfant. Et il te dit, ma sœur, j'ai besoin de toi pour mettre tes bras autour de cet enfant. Et quand tu auras accueilli cet enfant et que tu auras nettoyé les larmes de la honte, quand tu lui auras parlé aujourd'hui, des années après, quand tu vas l'accueillir, pas seulement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand tu auras accueilli cet enfant et que tu auras parlé le ministère de la réconciliation, ta parole va être thérapeutique. Non, la solution ne viendra pas de l'extérieur. Elle est en toi. Et je l'ai déposée dans le ministère et la parole de la réconciliation. Et tu vois, ma sœur, si tu avais été la seule personne qui devait entendre ce message aujourd'hui, il fallait que quelqu'un te le dise. Je ne te propose pas un chemin facile. Je te propose un chemin de réconciliation. Mais ce ministère, vous l'avez tous. Ce n'est pas le ministère de Paul. Ce n'est pas le ministère de Jacques, de Pierre Cranga, de Luc Bussière. Ce n'est pas le ministère particulier de Sozo. C'est votre ministère à chacun. Vous avez reçu le ministère. Et il a déposé en nous, il y a même une traduction qui dit, il a déposé en vous la parole de la réconciliation. C'est, qui est-ce qui croit ici qu'une parole de réconciliation, une parole qui guérit? Une parole thérapeutique. Dites avec moi, la parole de la réconciliation est une parole thérapeutique qui peut guérir n'importe qui, à condition qu'elle soit prononcée dans la foi. Vous savez ce qui va nous aider à faire ça dans la foi? Ce n'est pas parce que Pierre Cranga l'a dit, c'est parce que nous voyons Jésus prendre l'enfant dans ses bras, après l'avoir placé au milieu de ses disciples. Et vous avez compris qu'au milieu, il ne faut pas le voir de manière géographique. Ce n'est pas la géographie qui est en cause ici. C'est spirituellement. Il place ça spirituellement au milieu. Un enfant. L'enfant que vous avez été. Alors maintenant, lisez juste Luc 15 vers la fin et regardez comment le père s'y prend avec un enfant. Et vous ne savez pas? Faites comme lui. Faites comme lui. Voyez-le de loin, cet enfant. Soyez émus de compassion pour cet enfant. Courez vers lui. Mettez vos bras autour de lui, comme Jésus l'a montré. Couvrez-le de baisers. Revêtez-le de justice, du beau manteau, de la plus belle robe. Donnez-lui l'anneau de l'autorité. Dites à cet enfant, tu n'es pas une sous-humanité. Tu n'es pas victime de ton enfance. Tu peux régner aujourd'hui avec moi. Offrez-lui le veau gras. Et faites la fête avec cet enfant. Vous avez une part à jouer. Vous allez prendre maintenant quelqu'un dans vos bras, comme s'il s'agissait de l'enfant que vous avez été. Allez, prenez tout de suite quelqu'un dans vos bras, comme s'il s'agissait de l'enfant que vous avez été. Levez-vous et prenez quelqu'un dans vos bras. Levez-vous et prenez quelqu'un dans vos bras. Levez-vous et prenez quelqu'un dans vos bras. Alors lui, il vient vers moi. Alléluia. Et parlez à cet enfant. Parlez-le, accueillez-le comme le Père a accueilli. Accueillez-le une fois, accueillez-le deux fois. Exercez l'hospitalité trois fois. Exercez l'hospitalité quatre fois. Accueillez l'enfant. Accueillez l'enfant. Parce qu'en accueillant l'enfant, ce n'est pas l'enfant que vous accueillez le Christ, vous accueillez le Père. Et celui que le Père a envoyé. Celui qui a envoyé le Christ. Alléluia. Alléluia.
nous en supplions, soyez réconciliés. Soyez réconciliés. Que l'Église Josué devienne un peuple de réconciliation, un corps de réconciliation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Pierre. On peut applaudir hein, le don de Christ. Merci Jésus. Amen. Amen.